Bonjour. Comme tous les premiers mercredis du mois sur Fréquence 7, c'est l'heure de la rubrique Claire d'Étoile, présentée par l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin. Aujourd'hui, c'est avec Marilyn. Bonjour Marilyn.
Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et tous.
En ce moment, peu de planètes sont visibles.
Oui. En février 2021, Mars est la seule planète présente en soirée. Il faut attendre la fin du mois pour retrouver Mercure, Jupiter et Saturne à l'aube et à condition de disposer d'un horizon sud-est très dégagé. Mars a perdu beaucoup d'éclat car elle s'est éloignée de plus de 138 millions de kilomètres depuis le mois d'octobre 2020 où elle était au plus près de la Terre. Mais elle peut encore facilement être retrouvée grâce à sa couleur et surtout à son déplacement sur le fond du ciel au fil des soirées. Son point rouge est à chercher dès le début de la nuit, haut dans le ciel proche du zénith, au-dessus du sud-ouest. La Lune peut nous y aider. Les 18 et 19 février, elle viendra rendre visite à Mars. Son gros croissant se trouvera au-dessous de la planète. On en profitera pour repérer l'amas des Pléiades, sous lequel Mars va lentement glisser de fin février à mi-mars. À l'œil nu, les Pléiades apparaissent comme un petit regroupement que les enfants comparent souvent à une mini-mini-petite ours. Elle se trouve à environ 440 années-lumière. Le temps que leur lumière parcourt cette distance, nous les observons donc telles qu'elles étaient au moment où elles ont émis cette lumière il y a environ 440 années. C'était la Renaissance en Europe. Leur observation avec une paire de jumelles permet d'admirer le scintillement de dizaines d'étoiles de cet amas, qui en contiendrait 3000 en tout.
Les Pléiades sont d'ailleurs un sujet de choix pour les astrophotographes. Et sur les photos, on distingue comme de fins nuages autour des étoiles.
Effectivement, les Pléiades sont de jeunes étoiles encore entourées des restes de la nébuleuse, où elles se sont formées il y a moins de 100 millions d'années.
Jeunesse relative pour nous, mais réelle. Si on compare cet âge avec celui de près de 5 milliards d'années de notre Soleil.
Oui. Les Pléiades font partie de la constellation du Taureau, dont l'étoile principale fait concurrence à Mars. C'est la rougeoyante Aldébaran. Le 20 février, la Lune ayant dépassé le premier quartier, se trouvera à proximité d'Aldébaran. Plus bas, vers le sud, on reconnaîtra la belle constellation d'Orion, sous laquelle scintille de mille feux l'étoile Sirius, de la constellation du Grand Chien. Sirius est l'étoile la plus brillante de tout le ciel.
C'est la plus brillante parce que la plus proche de nous ?
Non, l'étoile la plus près de nous est, bien sûr, le Soleil, dont la plus proche voisine est la bien nommée Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière. Située dans la constellation du Centaure, visible dans le ciel de l'hémisphère sud. C'est une étoile naine, plus petite que le Soleil et invisible à l'œil nu. Si nous voyons Sirius si brillante, c'est qu'en même temps elle n'est qu'à 8,6 années-lumière et qu'elle est un peu plus grande et plus massive que le Soleil.
Autre chose à admirer dans le ciel en ce mois de février ?
Oui. Jusqu'à mi-février, en l'absence de la Lune, c'est même l'une des meilleures périodes de l'année pour repérer la délicate lueur de la lumière zodiacale, qui est le reflet des rayons du Soleil sur les particules de poussière errant entre les planètes du système solaire.
D'où viennent ces poussières ?
Elles ont été relâchées par les comètes les plus actives ou sont les débris d'impact entre astéroïdes. Pour parvenir à distinguer la lumière zodiacale, il faut disposer d'un site offrant un ciel limpide et bien noir, à l'abri de toute source lumineuse. Une heure à une heure et demie après le coucher du soleil, la lumière zodiacale se déploie de l'horizon ouest-sud-ouest, en cône effilée s'élançant vers le ciel et pointant vers les Pléiades et Mars en ce moment.
À présent, le focus sur les astéroïdes fait suite à de précédentes rubriques sur les petits corps du système solaire. Précisons que si l'on veut se rafraîchir la mémoire, on peut réécouter les rubriques Claire d'Étoile en replay, soit sur le site de fréquence7.net pour celle de cette saison, soit sur le site clairedetoile-brinjardin.info où on peut retrouver toutes les rubriques depuis 2018.
Pour commencer ce focus, petit rappel de la théorie la plus communément admise actuellement sur les débuts du système solaire. Un disque de gaz et de poussière gravitait autour du Soleil. Des grains de plus en plus gros s'y seraient agglomérés en planétésimaux, brique de base de la formation des planètes. Les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se seraient formées dans une position relativement compacte et proche du Soleil, qui aurait été fragilisée par interaction gravitationnelle. Leur excentricité aurait alors augmenté et elles auraient migré vers leur emplacement actuel, loin du Soleil. Cette migration aurait complètement déstabilisé le disque de planétésimaux résiduels, les dispersant dans le système solaire. Certains ont impacté les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. D'autres auraient formé la population des petits corps du système solaire, les astéroïdes et les comètes, dont on a identifié trois groupes principaux.
Qui sont la ceinture principale d'astéroïdes entre les orbites de Mars et Jupiter, la ceinture de Kuiper au-delà de l'orbite de Neptune et le nuage d'Oort aux confins du système solaire.
J'aborde ici les astéroïdes de la ceinture principale, située entre les orbites de Mars et Jupiter, à une distance d'environ 2 à 4 unités astronomiques, c'est-à-dire 300 millions à 600 millions de kilomètres du Soleil. Dans cette région, les planétésimaux restent perturbés. Ils tournent indépendamment autour du Soleil en 3 à 6 ans et entrent en collision de manière occasionnelle. Mais leur dislocation domine l'accrétion, empêchant la formation d'une planète. Ces corps, considérés comme reliques du système solaire primitif, sont très intéressants à étudier. Étymologiquement, astéroïde provient du grec aster, étoile, et eidos, aspect. Ce sont des astres difficiles à repérer, ressemblant à des étoiles.
À la différence que les astéroïdes ne font que refléter la lumière reçue du Soleil et, en tournant autour de lui, se déplacent sur le fond du ciel étoilé comme les planètes, grâce à quoi on arrive à les repérer.
Oui, le premier astéroïde a été découvert en 1801 par l'astronome Giuseppe Piazzi, alors directeur de l'observatoire de Palerme, en Sicile. Cela explique le nom de Cérès qui lui a été attribué. Cérès était la déesse romaine de l'agriculture, mais aussi la protectrice de la Sicile. Cérès est le plus gros objet de la ceinture principale avec presque 1000 km de diamètre. Depuis 2006, il est d'ailleurs classé comme planète naine plutôt qu'astéroïde. Des centaines de milliers d'astéroïdes gravitent dans la ceinture principale. La plupart diffèrent de par leur composition, leur forme, arrondie, allongée, en forme de cacahuète, et par leur taille de quelques mètres à 560 km pour le plus gros, nommé Vesta. Malgré toutes ces différences, certains présentent des similarités d'orbite, d'inclinaison ou de composition, suggérant une origine commune suite à la fragmentation d'un corps plus grand. Ces similarités déterminent leur classement en plusieurs familles. Par exemple, les membres de la famille Vesta, du nom de son membre le plus important, sont appelés les Vestoïdes. Ils constitueraient environ 6% des astéroïdes de la ceinture principale et proviendraient d'un énorme impact sur Vesta.
À force de collisions et de perturbations gravitationnelles, certains astéroïdes peuvent même être éjectés de leur position. Mais restent-ils dans la ceinture principale ?
Si leur excentricité augmente de manière forte et régulière, ils peuvent atteindre en moins d'un million d'années l'orbite de la Terre, mais aussi celle de Vénus et parfois entrer en collision avec le Soleil. Ceux qui croisent ou s'approchent de l'orbite de la Terre s'appellent des astéroïdes géocroiseurs ou géofrôleurs. On en dénombre des dizaines de milliers, classés en quatre familles selon leur distance au Soleil. Chaque famille porte le nom du premier membre découvert. Il y a les géocroiseurs Aton et Apollon et les géofrôleurs Amor et Attira. La plupart ne représentent strictement aucun danger car ils ne vont jamais s'approcher à plus de quelques dizaines de millions de kilomètres de la Terre.
Mais il me semble me rappeler que récemment, un géocroiseur inconnu, jusqu'alors, a littéralement frôlé notre planète à une altitude inférieure à celle de la Station spatiale internationale.
Effectivement, le 13 novembre 2020 à 18h20, l'astéroïde 2020 VT4 a frôlé la Terre à 380 km au-dessus de l'océan Pacifique Sud. C'est à ce jour l'astéroïde connu qui est passé le plus près de la surface terrestre et de loin. 2020 VT4 a été découvert par un système de surveillance des astéroïdes de l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï, 15 heures après son passage. Sa trajectoire près du Soleil avait empêché sa détection plus tôt. Précisons que même s'il s'était dirigé droit sur la Terre, 2020 VT4, avec sa taille estimée entre 5 et 11 mètres, n'aurait pas causé de dégâts. Par comparaison, l'objet qui a atteint Tcheliabinsk en Russie en 2013, en faisant des dégâts matériels, mesurait environ 20 mètres de large.
Il me semble que parmi les astéroïdes géocroiseurs, on surveille particulièrement ceux qualifiés de potentiellement dangereux, c'est-à-dire d'une taille supérieure à environ 150 mètres, et qui passe à une distance inférieure à environ 20 fois la distance Terre-Lune, soit environ 7,5 millions de kilomètres.
Oui, et on les classe sur une échelle de risque graduée de 0 à 10, nommée échelle de Turin. 10 étant une collision frontale entre la Terre et un gros astéroïde de plus de 10 km de diamètre, provoquant une catastrophe au niveau planétaire avec extinction massive d'espèces comme cela s'est produit il y a 65 millions d'années. À mesure qu'on descend dans l'échelle de Turin, le risque devient moins important, voire nul. Au degré zéro, l'objet ne pouvant atteindre le sol en raison de sa taille ou de sa nature, deviendrait une superbe étoile filante lors de sa violente pénétration dans l'atmosphère terrestre.
Alors atmosphère destructrice pour l'objet, mais protectrice pour nous.
Eh oui. Et sur les quelques 8000 géocroiseurs potentiellement dangereux actuellement connus, seulement 2 seraient à peine au degré 1 de l'échelle de Turin. Par exemple, Apophis, un astéroïde à tonnes, dont le risque de collusion avec la Terre en 2029 a d'ailleurs maintenant été écarté. Sur les dizaines d'années à venir, aucun astéroïde ne menacera la Terre. Le risque est bien plus faible que n'importe quel autre risque d'origine terrestre. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et en cette matière aussi, la prévention est essentielle. D'où les nombreux programmes de surveillance et de recherche développés dans le monde entier qui communiquent et croisent leurs mesures. En effet, plus longtemps à l'avance un objet potentiellement dangereux aura été repéré, plus on aura le temps de l'étudier et de préparer, selon sa taille et sa composition, les moyens de le dévier.
Et comment peut-on faire ?
Plusieurs procédés sont envisagés. Par exemple, le remorquage gravitationnel, qui consiste à lancer un vaisseau spatial mis en orbite autour de l'astéroïde, et la petite attraction exercée sur lui par le vaisseau spatial suffirait à le tirer progressivement hors de sa trajectoire. L'urgence actuelle est donc d'inventorier tranquillement tous les objets potentiellement dangereux pour laisser à nos descendants les informations nécessaires à leur protection.
Bien, merci Marilyn pour toutes ces informations. Notre émission se termine. Nous souhaitons une bonne journée à tous les auditeurs de Fréquence 7 et nous vous disons au mois prochain pour la nouvelle émission de Claire d'Étoile et Brin de Jardin. Au revoir et merci.
Au revoir.